13h. Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, une heure de plus à Paris.
RFI midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous.
Avec l'Iran de nouveau à la une aujourd'hui.
Toujours des manifestations un peu partout dans le pays et toujours une répression très forte du pouvoir. Une répression qui aurait fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation. Un signe positif, les liaisons téléphoniques internationales interrompues depuis vendredi ont repris partiellement avec l'Iran.
De nouveaux bombardements en Ukraine.
Nous irons à Odessa retrouver notre envoyé spécial dans le centre-ville. Des immeubles, un hôpital, des écoles ont été touchés par les bombardements.
Marine Le Pen est de nouveau devant la justice française aujourd'hui.
Procès en appel pour l'ancienne présidente du Front National qui a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. La chef de file de l'extrême droite française joue son éligibilité pour l'élection prévue en 2027.
En France toujours, les tracteurs sont de retour à Paris.
350 tracteurs se trouvent en ce moment dans le centre de la capitale pour une nouvelle journée de mobilisation. Une journée qui vise à dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur.
Et puis on terminera ce journal en musique.
Avec du rap français. Et le dernier album de Nino.
Et la situation en Iran, donc, pour commencer.
La communauté internationale craint des massacres à huis clos en Iran. Plus de 2 semaines après le début des manifestations contre le régime, le bilan humain de la contestation serait d'au moins 648 morts, essentiellement des manifestants. C'est ce qu'indique l'ONG Iran Human Rights dans un rapport publié hier. Des chiffres susceptibles d'être nettement supérieurs, précise l'organisation. La coupure des communications empêchant de mettre à jour les données. Siabla Junaidi, bonjour.
Bonjour.
Voilà donc plus de 100 heures qu'Internet est coupé en Iran, mais depuis ce matin, les appels téléphoniques vers l'international ont pu reprendre.
Oui, c'est une mesure prise pour calmer les critiques de la communauté internationale. En attendant, Internet, vous l'avez dit, reste coupé. Quelques rares images transmises par le réseau satellitaire sont sorties, mais la plupart montrent des rassemblements datant du week-end dernier seulement. Depuis, que s'est-il passé? La mobilisation de l'opposition a-t-elle faibli, comme l'espère le régime qui lui a organisé de grandes manifestations à sa gloire hier dans le pays. Un témoin joint au téléphone par RFI ce matin, à Téhéran, la capitale, décrit des rues où il est devenu très facile de circuler en voiture, contrairement à d'habitude, suggérant que la population évite de sortir. Il décrit aussi le déploiement important des forces de l'ordre dans les rues qui, le soir venu, tirent sur les passants suspectés de se rassembler. Une chose a marqué les esprits, raconte ce témoin, les images de la morgue de Karizak en banlieue lieu de Téhéran, débordé par l'afflux de cadavres. Montrées par la télévision du régime dimanche dernier, ces images ont été reprises à l'étranger et donnent un petit aperçu de la répression sanglante en cours en Iran.
Abla Junaidi, je rappelle que le bilan de la répression des manifestations contre le pouvoir dépasse donc les 600 morts, selon l'ONG Iran Human Rights.
Et Donald Trump a menacé les partenaires commerciaux de l'Iran de sanctions douanières.
Tout pays commerçant avec Téhéran sera frappé de droits de douane de 25% par les États-Unis. Une décision définitive et qui prend effet immédiatement, dit le président américain sur son réseau Truth Social. Une mesure susceptible de frapper notamment la Chine, un principal partenaire commercial de l'Iran.
Et les réactions sur la situation, la répression en Iran se multiplient.
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, se dit horrifié par la répression des manifestations. Il faut cesser de tuer des manifestants pacifiques et il est inacceptable de qualifier les manifestants de terroristes pour justifier la violence à leur égard. Le chancelier allemand Friedrich Merz estime de son côté que le pouvoir en place à Téhéran vit ses derniers jours et dernières semaines. L'Espagne convoque l'ambassadeur iranien à Madrid afin de lui exprimer son ferme rejet et condamnation de la répression des manifestations. Même réaction en Finlande.
Au moins 100 enfants ont été tués à Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël en octobre dernier.
Une annonce du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Cela représente environ un garçon ou une fille tué chaque jour pendant le cessez-le-feu. Ces enfants, 60 garçons donc et 40 filles, selon l'UNICEF, ont été tués par des frappes aériennes, des frappes de drones, y compris des drones kamikazes. Ils sont tués par des tirs de chars, ils sont tués par des balles réelles. L'UNICEF estime que le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé.
Gaza, où l'hiver est terrible cette année, où les habitants vivent dans la crainte constante de la pluie et du vent.
Une tempête touche actuellement l'enclave palestinienne et d'après la défense civile, qui opère sous l'autorité du Hamas, 7000 tentes ont été balayées ces deux derniers jours par les intempéries. Le froid est mordant et la destruction des infrastructures aggrave la situation. À Gaza, un reportage de Ferial Abdou et Frédéric Misla.
L'abri de Shadi a été bricolé près du Stade Palestine à Gaza, une couverture rouge maintenue au sol avec quelques pierres et une bâche en plastique qui claque au vent. Lorsqu'il pleut, ce père de famille de 29 ans essaye de protéger sa femme et ses deux filles.
Quand il commence à pleuvoir, je dis à ma femme d'aller chez ses parents avec les enfants pour qu'ils ne prennent pas froid, qu'ils ne soient pas mouillés. Quand la pluie et le vent sont forts, je reste debout toute la nuit à l'intérieur, en tenant un morceau de bois au milieu pour que l'eau s'écoule, pour ne pas ruiner l'abri.
Les pluies sont intenses cet hiver et le réseau d'évacuation a été détruit par deux années de guerre. Hosni Mouana est le porte-parole de la municipalité de Gaza.
Les principaux réseaux d'égouts et les systèmes de drainage des eaux pluviales ont été gravement endommagés. Lors des orages, cela crée de sérieux risques d'inondations et de débordements d'égouts mélangés à l'eau de pluie. Cela entraîne des inondations dans les zones résidentielles, les tentes, les rues.
La municipalité précise que 6 des 8 stations de pompage sont hors d'usage. Ferial Abdou dans la bande de Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Une nouvelle nuit de frappes russes sur l'Ukraine, des bombardements massifs.
18 missiles balistiques et près de 300 drones au total ont visé le pays, selon l'armée ukrainienne, la plupart du temps visant des infrastructures énergétiques, gaz, électricité, mais aussi des civils. À Kharkiv, les bombardements ont fait 4 morts. Odessa aussi a été touchée. On rejoint justement notre envoyé spécial en Ukraine, Théo Renaudon. Bonjour.
Bonjour Olivier.
Alors vous êtes à Odessa, où des drones sont tombés sur le centre de la ville cette nuit.
Oui, courte nuit. Hein. 2 vagues de drones ont touché la ville vers 3h du matin. 6 Ukrainiens ont été blessés. Dans le viseur, les stations électriques, évidemment. Mais pas seulement. Je suis actuellement au bord de la mer Noire, où c'est un restaurant de plage qui a été détruit par un drone. Vitres éclatées, tôles pulvérisées, cratères dans le sable. Il n'y a évidemment aucun intérêt stratégique à viser cet endroit. Personne n'habite là. Il n'y a rien d'autre que des mouettes et un bar à coq tel vide, preuve que les Russes frappent les villes à l'aveugle, sans distinction entre l'anecdotique, comme ici le stratégique avec les stations électriques, et l'horreur, parce qu'à quelques centaines de mètres d'ici, c'est un hôpital qui a été visé, de quoi terroriser une fois de plus les habitants.
Alors là, c'est pour la région et la ville d'Odessa, mais 400 km au nord, dans la capitale Kiev, Théo, la situation semble de plus en plus difficile, alors qu'une importante vague de froid touche la région.
Oui, les Kieviens, c'est comme ça qu'on les appelle, sont habitués à faire sans lumière depuis bientôt 4 ans. Mais désormais, c'est le chauffage qui est atteint. Et avec un thermomètre qui affiche moins 11 degrés, de la neige et même de la glace commencent à apparaître dans les appartements. Il n'y a plus d'eau pour éviter que les tuyaux gèlent. Même les supermarchés commencent à fermer. Les générateurs électriques ne suffisent plus à chauffer un minimum.
Théo Renaudon, en direct d'Odessa, en Ukraine.
Les Nations Unies réclament une enquête indépendante sur le décès d'une femme tuée par ICE, la police de l'immigration, à Minneapolis, aux États-Unis.
Oui, les Nations Unies exigent une enquête rapide et indépendante sur ce meurtre qui a déclenché une vague de manifestations aux États-Unis.
Les responsables des principales banques centrales mondiales expriment leur solidarité avec le président de la Fed, la Réserve fédérale américaine.
Les homologues de Jerome Powell volent à son secours. Le président de la Réserve fédérale américaine est au cœur, on le sait, d'une enquête pénale menée par l'administration américaine sur la rénovation du siège de la Fed à Washington. Un prétexte pour Jerome Powell qui dénonce la volonté du président américain d'exercer une pression sur les taux d'intérêt. Laura Salabert, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, il a reçu le soutien de plusieurs banquiers centraux.
Oui, parmi les signataires de cette déclaration commune, il y a notamment les dirigeants de la Banque Centrale Européenne, de la Banque du Canada ou encore de la Banque de France. Tous expriment leur entière solidarité avec le système de la Réserve fédérale et son président, Jerome Powell. Ils craignent pour l'indépendance des banques centrales, essentielles selon eux pour maintenir la stabilité des prix et des marchés financiers, car c'est l'un des rôles majeurs de la Fed, c'est de contrôler l'inflation grâce au taux d'intérêt directeur. Au cours du second semestre 2025, la banque centrale a abaissé à 3 reprises ce taux. Il est à son niveau le plus bas depuis 3 ans, mais ce n'est pas assez pour Donald Trump, qui n'a fait que critiquer les décisions de Jerome Powell, le traitant au passage de grand perdant et d'imbécile. Or, si Donald Trump arrive à ses fins, cela pourrait entraîner une inflation plus élevée élevé aux États-Unis, ce qui ne serait pas sans conséquence pour l'économie mondiale. Un scénario peu souhaitable donc pour les autres banques centrales qui rencontreraient plus de difficultés à maintenir la stabilité des prix dans leur pays.
Merci Laura Salabert.
Marine Le Pen est de retour devant la justice française.
Et avec une échéance décisive en vue de sa candidature à la présidentielle de 2027, le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, devenu depuis Rassemblement National, s'ouvre dans moins d'une demi-heure au Palais de justice de Paris. En mars dernier, la chef de file du parti d'extrême droite avait été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire qui l'empêche donc pour l'heure d'être candidate à l'Élysée. Laura Martel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la cour d'appel de Paris où Marine Le Pen est attendue d'un moment à l'autre.
Oui, et des dizaines de journalistes sont massés devant la première chambre où vont être à nouveau jugés la chef de file du RN, le parti et 10 autres prévenus, accusés d'avoir participé à un véritable système organisé de détournement de fonds au détriment du Parlement européen. 4,4 millions d'euros captés via 40 contrats signés par une dizaine d'eurodéputés sur une période de 12 ans, selon l'accusation, ce que les prévenus contestent. Marine Le Pen, condamnée en première instance pour avoir été au cœur de ce système, selon les juges, devrait en être présente. La patronne du RN, qui clame son innocence, a indiqué hier qu'elle assisterait au procès le plus souvent possible, même si elle ne compte pas renoncer à peser dans la campagne actuelle des municipales, y compris par des déplacements de terrain. Le calendrier devrait d'ailleurs lui permettre, car les audiences se tiendront du lundi au mercredi pour la plupart. Il faudra d'ailleurs sans doute attendre ce jeudi pour que les débats sur le fond commencent, puisqu'aujourd'hui et demain, il sera surtout de questions de calendrier et de procédure. Le verdict, lui, de ce procès qui va durer un mois, est attendu d'ici l'été. Pour Marine Le Pen, l'issue idéale serait la relaxe, elle ferait tomber l'ensemble de la peine. Une condamnation sans inéligibilité ou inférieure à 2 ans lui permettrait éventuellement d'être candidate à la présidentielle, puisque le décompte des 5 ans a commencé en mars dernier. À noter qu'hier, la chef du RN a précisé que même en cas de condamnation, le parti désignera en tout cas son candidat d'ici septembre, sans attendre une éventuelle décision en cassation.
Laura Martel en direct pour ce procès qui se tiendra donc jusqu'au 11 février.
Les tracteurs sont de retour à Paris.
Environ 350 tracteurs se trouvent dans la capitale française pour une nouvelle journée de mobilisation. Kakoumor, vous êtes devant l'Assemblée nationale avec ses agriculteurs, sans illusion visiblement, mais toujours déterminé.
Oui, effectivement, je suis au cœur de Paris, devant l'Assemblée nationale, entre 350 et 400 tracteurs sont là, selon les sources. Une immense colonne de tracteurs devant moi, une forte mobilisation à l'appel de la FNSEA et de jeunes agriculteurs pour dire le ras-le-bol du monde agricole, ce sont leurs mots contre la multiplication des normes, pour la simplification et contre le Mercosur. L'accord de libre-échange devrait être signé ce samedi au Paraguay, eh bien, essentiellement venu du bassin parisien et du nord de la France jusqu'à Nord Pas-de-Calais. Certains se sont levés même à 4 heures du matin. Ils sont là et ils disent qu'ils ne bougeront pas. Et quelques élus du Rassemblement national sont arrivés à la mi-journée pour les accompagner. Et dans les rangs des agriculteurs, la colère froide, la détermination règne, mais tout est calme pour le moment. Les pommes sont distribués aux passants, les barbecues sont sortis, sont allumés, tout cela surveillé de près par les forces de l'ordre venues en nombre impressionnant. Eh bien, ils disent, les agriculteurs, ils ne partiront pas avant d'avoir des réponses concrètes. Il y a peu, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, est venu pour annoncer que le Premier ministre allait le rencontrer à 14h30 tout à l'heure, annonce confirmée par Le Matignon.
Merci Agnieszka Kumor.
Et on termine en musique avec du rap français.
Après 2 ans de silence, Ninho revient avec le 4e épisode de sa saga Mills 4 pour Maintenant Ils Savent. Olivier Roger.
T'imagines si je m'en étais pas sorti, on était insortable, intenable et tenace.
Quand on remplit 2 soirs de suite le Stade de France à Saint-Denis, quand on dépasse Johnny Hallyday au nombre de singles certifiés platine, or ou argent, on peut céder à l'autocélébration. C'est le cas sur le titre d'ouverture de l'album Pression. Ninho partage avec beaucoup un goût pour l'étalage de sa réussite, thème qu'il décline sur la première partie de l'album sur une drill et un trap aux couleurs sombres.
À 17 ans, j'avais le violet, nique les BD. Ça dégoûte. À 17 ans, j'avais le violet.
La deuxième partie est à la fois plus mélodique et plus originale. finale. Des titres comme au 33e, Flore Bon, la nostalgie de l'adolescence.
C'était qu'un rêve de gamin, on a dû se donner les moyens, alléluia. Je crois que j'ai réussi à brosser dans le grand bassin.
Quant au morceau Lettre à un fils, il déborde de conseils parentaux façon Kipling et son Tu seras un homme, mon fils.
Investis bien tes billes, mon fils. Attention aux vices des femmes, sois actif, pas immobile. C'est comme ça que tu creuses l'écart. La route
à 29 ans, Ninho est l'un des maîtres du rap français et semble s'éloigner de la dangereuse époque 2020-2022 où il faisait l'objet d'accusations de viol en réunion. Ce quatrième volet de l'œuvre entamée il y a 10 ans ne renouvelle peut-être pas le travail de Ninho, mais il démontre en revanche toute sa maîtrise et son art de la punchline.
Quand le fric s'envole, je cours toujours après. Une larme qui coule, c'est pour signer la lettre.
Le rappeur français Ninho, tout de suite, la suite des Raffi Midi avec Johan Bentner.
Merci Olivier Sherman.
Vous avez un message.
Radio HDR, le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1 FM.
Je vous remercie de votre attention.
Get me through my day. Oh, watching you sleeping, I pray. Oh, please don't make my feel go away. Just the look of those eyes cutting through my smoky sky. Get me through my day. Watching you sleeping, I pray. Yeah, please don't make my feel good go away. Get me through my day.
sale ligali kita kalawana kalawana nalekisi nalekisi nanona mama
Somebody HDR 99.1 à Rouen. Groovy, groovy, jazzy, funky, bounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing, it drips the MC. London, quite London, I need to make a sound. HDR.
Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer.
Je vous dis que j'aime pas le rock.
Pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock, alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock.
Je me souviens d'un air sud-américain, c'était très amusant. Irène dansait comme une espagnole, un peu comme ça.
HDR.
Je prends le micro, comme toi, tu prends le métro. J'ai le ticket qu'il faut, et jure de compost en le passant dans ton stuanton. J'avance lentement, mais sûrement.
Foudoudoudou, da 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 da, foudoudoudou, pow. Peace, love in my heart, it's been a while now. Here's three words, hold it down. So right now, I am gonna hold it down.
Chérie, qui m'inta corréna, collé là, on s'amène.
Voilà, vous êtes sur HDR.
99.